Radio Larzac vous présente dans les coulisses du musée de Millau et des Grands Causses. Une série de pastilles sonores pour découvrir le musée, ses métiers, son fonctionnement et ses actualités. Le MUMIG, musée de Millau et des Grands Causses et site archéologique de la Grofezinck, poursuit en 2026 son partenariat avec la chaire CNRS de professeur junior Habitabilité de la Terre et Transition Juste de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chaire occupée par Nastasia Martin autour des questions d'habitabilité. Dans le cadre de ce partenariat, trois journées d'études sont organisées pour inviter chercheurs et chercheuses, habitantes et habitants et passionnés à questionner les relations que nous entretenons avec les éléments terre, eau, air et feu dans les Grands Causses. Alors que de profondes mutations climatiques et écologiques bousculent aujourd'hui nos représentations et nos modes de vie, allant jusqu'à menacer l'habitabilité de la terre et de nos territoires, dans quelle mesure les collections muséales, comme celle du MUMIG, peuvent-elles aider à penser et à redéfinir les liens que nous entretenons avec les Grands Causses? C'est tout l'objet de ces journées d'études qui s'articulent autour de conférences et tables rondes le matin, des ateliers pratiques l'après-midi et des soirées grand public où les chercheurs et chercheuses sont invités à présenter de manière sensible et performative leur rapport aux éléments convoqués. Radio Larzac est partenaire du MUMIG sur ce projet pour enregistrer et diffuser une trace sonore des échanges et des réflexions qui ont émergé lors de ces trois journées. Nous vous proposons à l'écoute sur nos ondes et un podcast plusieurs enregistrements effectués pendant ces journées d'études. La première journée s'est déroulée le samedi 11 avril 2026 et tournée autour de l'eau et de la terre dans les Grands Causses. Aujourd'hui, nous vous proposons à l'écoute la présentation de deux corpus d'objets issus des collections du MUMIG et des légendes des Grands Causses par Katia Fersing, directrice du MUMIG, et Malika Verlaguet, artiste-conteuse. À la fin de la matinée du 11 avril, elles ont présenté une légende en lien avec le quartier Millavois de Malourté.
Et donc nous, on voulait simplement terminer la matinée en vous racontant cette histoire qui vient du quartier de Malourté, pas de très loin, et qui s'appelle le mythe fondateur du Pays Maigre ou de Malourté. Simplement pour le recontextualiser, et ce récit, il est à mettre en relation avec ce qu'a raconté Christelle, et donc il sera reconvoqué cet après-midi dans les ateliers autour du travail et des réflexions de Christelle. Ce récit a été créé collectivement. Il y a eu plusieurs étapes dans la création de ce récit, mais autour de l'histoire de ce quartier, Malourté, pour répondre à plusieurs enjeux. L'idée, c'était de déconstruire des représentations assez négatives que les habitants de Millau pouvaient avoir autour de ce quartier, pour des raisons diverses et variées. C'était d'aider à retisser des liens entre les habitants, malgré les disparités sociales et l'absence de lieux de sociabilité, de proximité. C'était aussi l'idée de réenchanter le rapport à l'espace proche dans un espace sururbanisé. C'était aussi l'idée de se réapproprier les motifs du légendaire traditionnel et construire un imaginaire à la fois libre et enraciné et qui nous faisait nous sentir d'ici, de ce quartier, et qui nous connectait aussi aux enjeux du temps présent. Bref, il y avait beaucoup de choses derrière ce récit. On a fait aussi des tas de choses avec lui. On a fait un carnaval. Vous avez un exemple des masques qui ont été créés pour ce carnaval.
Akiludrak,
qui sera là cet après-midi pour accompagner l'atelier de Christelle. On a fait des expos. Il y a eu une fresque qui a été réalisée dans le quartier avec des artistes muralistes d'ici, etc. Et là, on va vous raconter un tout petit morceau choisi en lien avec Christelle, donc autour de du passage de rivière.
Voilà, mais on va commencer par le début. Rappelez-vous de ces temps où les êtres humains, les animaux et les plantes parlaient le même langage, où le visible ne pouvait exister sans l'invisible, la lumière sans l'obscurité, le dessus sans le dessous. Alors au début, il y avait un petit cep de vigne, tout pitchou, tout rassou, qui vivait sous les contreforts du Larzac, vous voyez, là où il n'y a pas beaucoup de soleil, où il y a toujours la gelée blanche, là. C'était là qu'il vivait, et faisait une frette qui pèle. Et en face, c'était tout autre chose. Raconte en face.
En face, c'était le Pays Maigre et c'était là où vivait le drac, donc cette créature diabolique qui avait été chassée d'Écosse alentour, où on raconte beaucoup d'histoires sur le drac. Et il avait trouvé refuge justement à Malourté, au Pays Maigre, le pays des mauvais jardins. Hein. On l'appelait comme ça parce qu'on savait que le drac habitait là, dans une baume. Et c'est là que, donc, il se cachait.
Voilà. Et le petit cep de vigne, bah, il voyait tout ce soleil en face. Et puis, il a eu envie de retrousser ses racines et d'aller les planter de l'autre côté, au soleil. Donc, son grand-père lui a dit « Vas-y, Pichou, il ne faut jamais renoncer à ses rêves. » Vous voyez, c'est important, les grands-pères. Et puis, il lui a aussi donné une petite pierre pour l'aider à se sortir de mauvaises situations, à condition de dire
« Père,
il avait le droit de l'utiliser 3 fois. Puis, il lui a aussi dit de jamais oublier là d'où tu viens.
Voilà, et c'est comme ça que le petit cep de Vinila donc pris le chemin pour retrouver cet endroit tant désiré. Il est arrivé au bord de la rivière et là, en fait, il y a eu un événement incroyable, c'est que la rivière s'est mise justement à pulser à fond.
Ah ouais, la grosse pulsation de la rivière, hein, mais qui n'était pas canalisée à cet endroit-là. Et ça s'appelle une tornade. Mais la tornade, elle est pas... pourquoi elle est arrivée, la tornade? C'est à cause?
Parce que le drac, il avait bien vu que le petit cep de vigne voulait débarquer chez lui et ça ne lui a pas plu du tout. Tu vois.
Non. Donc il a soufflé une buffale comaco qui t'a retourné le Tarn et là peut-être il manque des dracs pour pulser à des endroits, mais en tout cas ben, il ne pouvait plus passer, et à l'époque pour passer le Tarn à cet endroit-là ça se faisait à...
Oui, ben, y avait des ponts, on l'a dit tout à l'heure, mais il n'y en avait pas beaucoup, et sinon ça se faisait en aviol, c'était des petites embarcations qu'on utilisait pour aller d'un côté à l'autre de la rivière. Et là, justement, il y a coup de chance, il y a un petit naviole qui arrive.
Voilà,
là,
conduit par un petit garçon, Victor.
Oui.
Mais là, qui commençait sérieusement à trentouler sur la rivière. Puis il a vu le petit cep de vigne. Il a dit, mais de que fais à qui? Est-ce pas le moment de randouler déjà? Et le petit cep de vigne, il a dit, mais non, mais moi, je veux traverser, aller de l'autre côté. Prends-moi sur ton naviole. Et il a dit, je peux pas le diriger. Attends, on va... Je vais aller chercher une voile.
Ouais, et là, il y avait un drap sur le bord de la rivière. Et ce drap, il n'était pas là par hasard. Il avait été déposé par les fadarelles qui avaient fait leur lessive juste avant.
Et, ouais.
Et donc, ces fadarelles, elles ont vu qu'on leur piquait le drap, t'imagines?
Et ça, elles n'aiment pas. Elles n'aiment pas qu'on leur pique des choses. Hein. Non, d'ailleurs, il faut plutôt leur faire des offrandes. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là. Oui. On ne prend pas. Là, il a pris le drap. Il l'a installé pour essayer de diriger son embarcation. Bon, bah, ça a marché. Mais par contre, on aime Buffa de la fadarelle, elle aussi. Aussi, elles sont allées voir, attention.
Un brochet, un énorme brochet qui était par là dans la zone et qui se cachait là. Et ce brochet, le problème, c'est qu'il souffrait vraiment de maux de ventre terribles parce qu'en fait, il avait ingurgité des tas de choses qui étaient dans la rivière et qui n'étaient pas faites pour lui.
Non, bah, y a eu toute la mégisserie, hein, toutes ces eaux polluées. Il y avait du plastique, macroplastique, microplastique, il y avait des pesticides, il y avait tout, quoi, la crème solaire. Enfin, non, mais c'était l'enfer. Ça, il faisait des crèmes azul staruples.
Donc, il n'était pas content. Donc, quand il a vu qu'il pouvait, à un moment donné, taper sur la tête d'un humain, il s'est dit, là, c'est le moment, il faut y aller.
Ouais, c'est toujours les petits qui trinquent, hein, de toute façon, c'est comme ça. Mais là, les fesses se sont dit, ah, belle, ou quand même, Fatino Kunoriol ou Pichou Pekair, il n'a rien fait, le gosse. Il n'est pas responsable de ce qu'ont fait les gens qui ont vécu là avant lui. Donc, elles ont dit, au brochet, calme-toi. Puis surtout, cet enfant, on sent qu'il va être utile et te délivrer de tes crémages. Donc là, le poisson s'est calmé.
Ouais, et ils ont pu traverser la rivière avec les fées qui les accompagnaient. Donc, arrivés de l'autre côté, elles ont récupéré leurs draps. Et puis, tout le monde s'est séparé en se faisant, voilà, en se tapant dans la main et en se disant qu'ils se reverraient bientôt.
Ouais, et là, on va pas tout vous raconter, non. Ça serait beaucoup trop long. Mais il y a, bon, forcément, le drap qui était toujours pas d'accord pour que le petit cep de vigne plante ses racines sur son territoire. Mmh. Donc, s'en sont suivies une série
de grosses batailles
entre le petit cep de vigne et le drac,
voilà.
Qui à chaque fois se changeait, parce qu'il peut se métamorphoser en toutes sortes de choses, le drac. Donc là, il se métamorphosait en plusieurs boucs,
cheval noir, chien, tout ça.
Et à chaque fois, le petit cep de vigne a remporté les épreuves grâce à
Sa petite pierre.
Eh bien oui, ça, ils avaient oublié la pierre.
Ils n'y étaient pas
Peiro,
là.
Peiro, peiretto. Et ce qui est intéressant, c'est que ces combats, ils ont modelé le paysage, ils ont modelé la terre.
Oui, alors là où il y a eu, par exemple, là où le drac, sur la dernière bataille, il est tombé, il s'est aplati de tout son long, ça a permis d'aplanir la montagne et on a fait les grands immeubles de Malourté qu'on connaît tous, les violettes, tout ça, les églantiers. Après, sur d'autres endroits où il y a eu des combats plutôt en mode circulaire, où ils se couraient derrière les uns les autres, eh ben, on a bâti des placettes et on a fait des petites maisons autour. Enfin, je veux dire, après, dans la suite de l'histoire du quartier, ça a été très utile, finalement.
Ah bah oui, oui. Ouais.
La topographie a été mise à profit à fond.
Bon, à l'issue d'un pari, le Drac a perdu, il a dû partir.
Oui.
Et laisser la place au petit cep de vigne qui s'est installé là avec tous ses amis, tout ça. Mais avant toute chose, ils sont allés tous là, les Fadarel, Victor, parce qu'ils reviennent tous à un moment. Hein. Le cep de vigne, ils sont allés dans là-bas au mois du Drac chercher quelque chose.
Oui, et ils ont trouvé l'objet dont parlaient les Fadarel au départ qui pouvait éventuellement aider le brochet.
Oui, parce qu'il y avait tout un tas de bazar là-dedans.
Parmi les 2000 autres objets, il y avait celui-là.
Celui-là.
Et c'était un buffette.
Une buffette, vous savez, normalement, c'est pour attiser les flammes d'un feu, là. On fait... voyez alors... Très exceptionnellement,
je crois qu'ils imaginent le truc,
ce genre d'objet, pour certains rituels occitans, on se le met dans le derrière. Mais c'est très exceptionnel, c'est une fois par an, pas plus. Voyez. Et alors on souffle comme ça, et il y a une petite chanson très sympa qui fait partie du folklore local. Hein, et Buffosi, I'll kill, et Buffosi, I'll kill. Ça se fait un peu moins, mais bon, ça c'est fait, sachez-le, ça c'est fait. Et ils ont fait ça pour
ça
le brochet. Eh ben ouais. Et donc, ils ont trouvé un petit orifice plutôt vers la queue. Et ils ont soufflé dedans. Et là, le brochet, il a tout vomi, il a tout régurgité,
toute
la pollution qu'il avait à l'intérieur. Il s'en est trouvé beaucoup mieux après. Ouais. Rébisculat.
Et il est reparti tranquillement dans la rivière apaisée. Et l'histoire raconte que le quartier s'est construit et qu'une école a été construite et qu'il y a quand même des lieux emblématiques dans ce quartier. Il y a toute une topographie légendaire bien ancrée dans la mémoire des habitants qui racontent toujours cette histoire et ils s'en revendiquent un peu quand même.
Un petit peu.
Un petit peu.
Voilà. Et cric et crac, le Kuntaz Akabat.
C'était La légende de Malourté ou le mythe du pays maigre, présenté par Malika Verlaguet et Katia Fersing le samedi 11 avril 2026 à l'occasion de la journée d'études consacrée au rapport à l'eau et à la terre dans les Grands Causses. Dans la suite de la journée, juste avant le début des ateliers réunissant citoyennes, citoyens, chercheurs et chercheuses, un dernier corpus d'objets et de légendes a été présenté, cette fois-ci un lien avec la terre des Grands Causses.
Donc on va introduire cet après-midi, comme on l'a fait ce matin, par une petite sélection non exhaustive donc de récits légendaires et d'objets du musée. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'avais oublié de passer une diapo qui montrait des objets liés à la mégisserie et à la ganterie. Tant pis, vous ne l'aurez pas vu, mais il y a des objets, beaucoup d'objets au musée qui racontent cette histoire. Donc on va vous parler d'objets qui ont un rapport avec la terre, puisque ce sera le dernier corpus. Et ce corpus viendra résonner plutôt avec le travail de Philippe Vernant, que vous avez entendu tout à l'heure, et qui sera en atelier donc, ensuite. Et puis ensuite, on se dirigera tous vers les ateliers sur lesquels on s'est inscrit. L'atelier de l'eau avec Anne et Cédric, c'est dans le hall. L'atelier de la terre avec Philippe et moi, c'est la première salle un peu plus loin, là, dans la pièce à côté. Et celui avec Christelle et Gaëla, c'est un peu plus loin dans la même salle. Voilà, donc vous savez tout. Allez, c'est parti. Commençons, Malika, par le commencement.
Au commencement, il y avait les géants. Ça, vous le savez. Donc, les géants ici qui ont une grosse empreinte sur notre territoire. Par exemple, vers Roquefort, les Boulis. Moi, je dis le Kumbalou, mais c'est à l'Occitane. Peut-être qu'ils disaient aussi Kumbalou.
Il y en a qui disent le Kumbalou ou le Kambalou aussi.
Voilà. Ouais. Mais cet éboulis-là, il n'existait pas avant, au commencement. Non, tout a commencé avec un défi entre deux géants, 12 gigants. Il y en a un qui a demandé à l'autre, et ça va rejoindre tes travaux, combien pèse cette montagne ? Ils n'avaient pas l'outil, là. Tu sais, l'outil.
Bon. Mais ils avaient le nez. Ils avaient le nez.
Non, mais surtout, ils avaient la force de soulever une montagne. Donc, le géant a dit, pas de problème, je vais te dire le poids de la montagne. Alors, il a fait un trou dans le rocher pour passer le crochet d'une balance. La balance, il est allé se la forger sur un volcan voisin. Et puis après, hop, il a mis le crochet dans le trou. Et puis, il a soulevé la montagne. Dans un geste très élégant, dit la légende. Et puis une fois le poids connu, bam, il a laissé tomber la montagne.
Ça fait quel bruit ?
Non, j'ai dit que je le ferais qu'une fois. Et alors, ça a créé ce fameux éboulis. Et le trou, il y est toujours dans le rocher. Comment il s'appelle ce trou ?
Le trou de la lune.
C'est lui.
Exactement.
Et puis alors, j'en ai d'autres. Hein, des histoires de géants, je sais que tu vas m'arrêter un moment, mais sur Roquezalte. Roquezalte, vous voyez, cette espèce de truc ruiniforme, là.
Non, de quilles. Il les a appelés les quilles. Il en a parlé tout à l'heure, Philippe.
Bon. Ben oui, justement, des quilles. Ça tombe bien, c'est le bon mot, parce qu'il paraît que les enfants des géants, parce qu'il y avait aussi des petits géants qui étaient déjà grands, mais voilà, depuis la Blaquière, sur le Larzac, ils jetaient des gros
galets,
mais gros, hein, gros les galets, pour déquiller des quilles qu'ils avaient mis en face sur le Cosnoir. Mais ils ont pas réussi à les déquiller, les quilles, tous les galets qui sont tombés dans la rivière dessous. Par contre, elles sont restées, les quilles, et c'est sous un rasigados. Elles se sont enracinées, les quilles, et on les retrouve aujourd'hui, c'est Roquezalte.
Mmh. Oui. Et nous, au musée, on a d'autres géants. Alors, ce ne sont pas forcément les traces des géants dont tu parles, toi, mais c'est des
traces. Ah non, je ne les voyais pas comme ça.
Mais ils sont quand même géants, tu as vu. Et ils font plusieurs mètres de haut, plusieurs mètres de long. Ce sont des gros tétrapodes. Celui-là, on l'appelle le mégalosaurus. Et on le soupçonne, donc, au Mésozoïque, hein, c'était quand même il y a plusieurs millions d'années, bien plus que même ce qu'a raconté Philippe. Eh bien, ils ont marché dans ces endroits marécageux dont je vous parlais ce matin. Et ils ont laissé des empreintes fossilisées. Et donc, nous, on a des moulages de ces empreintes au musée. Ça, c'est nos géants à nous, au musée.
Bon, d'accord, vous avez des traces de géants. Il y a aussi un endroit qui s'appelle Loupé del Gigante. Il y en a d'autres sur le territoire, des traces de géants, hein, à part celle-là. Mais est-ce que vous avez des traces de fées ?
Oui, alors c'est la vaisselle des fées.
Vous appelez ça la vaisselle des fées ?
Oui. Oui. La céramique du néolithique qui a été trouvée dans des grottes, souvent on disait « Ah, mais dans cette grotte, il y a de la vaisselle des fées. »
C'est du langage de spécialiste, ça. côté science dure, je veux dire.
Donc, on a beaucoup de vaisselle des fées, nous, au musée, depuis l'époque néolithique jusqu'à une époque beaucoup plus récente. Donc, beaucoup de céramique. Et d'ailleurs, ça montre aussi une évolution des techniques de fabrication et de cuisson qui est assez intéressante. Et donc, tu sais, ce matin, on a parlé des vases-citernes pour recueillir l'eau. Eh ben, on a beaucoup de récipients qui servaient donc à mettre les aliments, notamment les céréales qu'on cultivait sur le Cos.
Ça, c'est en rapport avec la terre nourricière, parce que j'ai la prière des fées à leur dire.
Oui,
je peux leur dire. Donc, attention. C'est une prière qui se disait vers la Canourgue. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont pas loin. Genu l'intero e cappellado davant lo castel della Fado, perché nous donna questa nado erbe pel prat, femme pel palier. Ordi, frumen, luple, granier, et nous préserve de l'aigado. Je vais traduire. Genou en terre et tête nue devant le château de la fée pour qu'elle nous donne cette année herbe au pré, foin au paillet, orge, froment, plein le grenier, et nous préserve de l'aigado. On l'a traduit par la crue, quoi, l'eau qui pulse.
Qui déborde, qui pulse. C'est ça. Et donc, au musée, par exemple, nous, pour parler de ce rapport à la terre nourricière et à la culture, on a cette meule de blé préhistorique qui est pas forcément montrée en ce moment, mais qui est dans les réserves du musée. Et puis, il y a d'autres récits aussi qui parlent de ça. Et
bah, les fées de Navas.
Des moissons.
Des fées, ça va ? Non, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Ça, Navas, c'est sur le Cos.
C'est sur le Cos noir.
Oui, c'est celui-là. C'est elle, l'autochtone puissante. Là. Noir, voilà, ça, le Cos. Ouais. Et donc, à Navas, il y avait un type qui passait là, dans une ferme pour se louer à la journée, pour faire le travail à la journée, pour être payé à la fin de la journée. Mmh. Et on lui a dit, vas-y, il y a un petit champ là, à moissonner. Vas-y, et puis à la fin de la journée, tu seras payé pour ton travail. Et le type, il y est allé. Alors, à l'époque, c'est Segab ou Al-Boulam, hein, une sorte de faucille. Et à midi, ils sont allés lui porter l'oudina. Et ils ont trouvé le type, là, sous un arbre, en train de runka. Et le chant n'avait pas été commencé, quoi. Ils ont dit, mais enfin, noté, t'as pas commencé. Si. Il a dit, Anuet, Ako, sera fach, vous inquiétez pas, ça sera fait. Bon, ben, les autres, ils ont dit, ben, Rembe. Et puis, ils sont revenus pour le goûter. Et Spincha, un pao qui n'avait pas commencé, il était toujours sous son arbre. Je me disais, c'est pas possible. Et l'autre, il disait toujours, Anuet, à quoi sera fach ? Et bien, effectivement, le soir, tout était terminé, les gerbes bien faites et tout. Et le type, il a dit que les fées étaient venues l'aider. Et sa journée a été payée comme s'il l'avait faite.
Et grâce aux fées. Mais ça arrive souvent hein, dans les histoires du COS que les fées interviennent pour aider.
Puis on le retrouve au niveau de la toponymie aussi, ce côté de cultiver tous ces mots ségala, ça veut dire les lieux où on cultivait le seigle. Et puis il y avait aussi tout ce qui est les paillades sur le COS noir avec ces paillets là qu'on faisait. Et même paillasse qu'on connaît bien dans la vallée, ça vient de là.
Ouais, et pour continuer dans cette idée des cultures, on a aussi des objets qui servaient donc à défricher. Donc on a beaucoup de haches polies trouvées dans les grottes alentour. On a celle-ci, elle vient de la Clapade par exemple. On a des herminettes, on a pas mal de choses qui racontent ce travail de la terre, ce défrichage des espaces boisés pour ensuite cultiver la terre. Voilà, et donc c'est des choses qui sont assez importantes au musée. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut voir sur le COS en termes de, d'aménagement de l'espace. En fait, comme ce sont des terres très caillouteuses, on a sur le COS des gros clapasses. On en a un juste ici, on en a un peu au-dessus, on en a là, ils sont un peu embroussaillés dans les bartas là, mais en fait c'était vraiment des pratiques d'épierrement des terres pour pouvoir les cultiver derrière quoi.
Et ça on le retrouve dans la toponymie, il y a beaucoup de clapas, clapade, claparède, clapari tout autour de nous.
Oui, alors évidemment que la question de la terre c'est aussi sur le COS l'élevage associé à l'agropastoralisme en particulier. Il se développe, lui, beaucoup à l'époque chalcolithique, au néolithique, donc, mais à l'époque chalcolithique, vers 2000 avant notre ère. Et donc là, on va trouver des élevages de moutons, de cochons, de bœufs, de chèvres. Ici, nous, au musée, on a... Bon, elles sont un peu plus récentes que l'époque dont je vous parle, mais ces petites billes d'argile cuites, là, ces fusaïoles qui permettaient, finalement, d'enrouler la laine qu'on avait filée. Donc c'est des témoignages intéressants de la question de l'élevage et c'est vraiment des petites pièces mais qui racontent beaucoup de choses. Et il y a une toponymie liée à l'élevage aussi.
Un petit peu légèrement, mais alors ça peut être soit le nom. Je vais pas faire trop de toponymie parce que c'est quand même pas mon domaine de raconter des choses vraies, hein. Mais en fait il y a tout ce qui est pargado, fumado, tous les chemins de transhumance, drali, ostriadou, ou alors sur les surfaces des prates, des débèzes. Tout ça c'est des mots qui font partie de la façon dont on en était sur la terre, quoi.
Dont on nommait l'espace. Et puis après, si je continue un peu la balade sur le COS, on va trouver beaucoup de sentiers, de chemins empierrés. Là, ici, c'est un sentier qui part de la vallée de la Dourbie et qui monte vers le Larzac. Il y en avait énormément parce que la vallée était fortement connectée au plateau, les plateaux céréaliers, la vallée où on cultivait d'autres choses, où il y avait les moulins, etc. Donc on avait vraiment des axes de circulation qui parsemaient les vallées et qui connectaient Cosse et vallée. Et puis sur les Cosses, on avait ces anciennes voies aussi de circulation. On trouve des traces de ces voies de circulation à l'époque gauloise. Et puis elles sont devenues, par exemple, certaines des voies romaines et dont on peut encore voir quelques vestiges, notamment sur le COS du Larzac, mais ailleurs aussi. Puis il y avait ces itinéraires de transhumance qu'on appelle les drails aussi, ces chemins que suivaient les troupeaux pour transhumer. Voilà. Donc il y a tout un patrimoine bâti lié à la question de l'élevage. Ici, on va le retrouver sur des espaces aménagés comme ça, au pied des falaises. Donc ce sont des baumes qui sont bâtis et qui servaient d'anciennes bergeries. On va aussi le trouver plutôt sous forme de jasses. Ce sont des bergeries et qu'on utilise largement encore aujourd'hui dans les exploitations. On va aussi avoir toute la question de l'habitat cossonard, où on va utiliser la pierre calcaire pour aménager et bâtir, et notamment du coup pour faire le lien avec ce qui se passe actuellement, les couvertures en lauze, avec cette tioulière, donc cette carrière de lauze qui est encore exploitée aujourd'hui sur le Larzac, et dont tu peux peut-être...
Non, mais il n'y en a plus qu'un lausier, donc on ne va pas trop les dénoncer.
Bon, si tu veux. En tout cas, il y a encore une forte activité autour de la question de la couverture en lauze et en pierre d'Écosse. Voilà. Et puis, pour bâtir, il faut du liant, il faut des enduits derrière. Et donc, on a aussi de magnifiques fours à chaux sur le COS qui racontent cette manière de travailler la pierre, de la chauffer, de la rendre utilisable pour travailler les enduits ou le liant pour la construction. Donc un aménagement en fait du territoire qui est vraiment propice à l'utilisation de la pierre sous toutes ses formes. Ici on voit des terrasses là près de Saint-Véran dans la Dourbie qui vraiment racontent une anthropisation très très marquée et très très importante de ces versants où on avait par exemple ici pas mal de vignes, de fruitiers aussi, etc. Donc c'est un patrimoine qui est quand même assez remarquable. Voilà.
Et je trouve que tu restes un peu en surface là. La terre, c'est aussi le dessous. C'est quoi notre rapport au dessous ?
Eh ben, le rapport au monde du dessous, il est pluriel en fait. Dans les collections du musée, en tout cas, on va retrouver diverses choses. Mais le milieu souterrain, ce sont des lieux, on l'a dit, où on trouve de l'eau. C'est des lieux qu'on exploite aussi. D'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais on va y venir. La question des extractions minières, elle est centrale dans notre région, surtout à l'époque chalcolithique. Et durant toute l'Antiquité, on va creuser le sous-sol pour aller extraire du cuivre argentifère en particulier.
Comme à Boucau-Payrol ?
Comme à Boucau-Payrol.
Ouais, Payrol, c'est le chaudron en cuivre. Et la Boucau, c'est la bouche, parce que l'entrée de la mine, comme ça, l'hiver, quand il y a la fumée qui sort, là, ça fait comme une bouche qui respire.
Ouais. Et on a retrouvé de nombreux objets de mineurs, donc des marteaux, des percuteurs, des broyeurs, et aussi des ossements humains qui ont permis de dater d'ailleurs les différentes périodes de l'occupation de ce site-là. Et on a aussi avec le monde souterrain, du coup, un rapport qui est sacré, qui est lié au monde d'en dessous, de l'au-delà, le monde invisible. Donc on va avoir des grottes sépulcrales dans lesquelles on dépose les corps et qui vont servir aussi de grottes sanctuaires quelque part. Donc on a beaucoup au musée de Millau de dépôts funéraires, donc d'ossements humains. Par exemple, ici, un crâne assez incroyable pris dans de la calcite. Mais après, on a aussi des exemples de crânes trépanés. Donc c'était des crânes qui avaient fait l'objet de pratiques médicales dont on ne sait pas trop comment les gens en réchappaient au final. Mais visiblement, ça, on a quand même des crânes qui ont recicatrisé derrière. Donc on considère qu'ils avaient quand même mis au point des techniques qui n'étaient pas si inefficaces. Voilà. Et donc, tu vois, il y a un rapport au sacré très, très fort, à l'au-delà, quoi. Alors, excuse-moi, je vais revenir en surface. Hein. Et en surface, on a aussi monuments funéraires qui datent du néolithique, les dolmens, qui sont eux aussi, qui témoignent d'un certain rapport à la pierre, puisque ce sont des mégalithes assez imposants par endroit. Ici, celui de Thiergues, c'est une photo de M. Azémar, d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé sur la question et qui pourrait nous en parler très précisément.
Alors, du point de vue du légendaire, ça, c'est soit un tombeau de géant, soit une maison de fées. C'est l'un ou l'autre, selon les versets. Ça me fait penser, par exemple, près du Viala du Pas de Joux, il y a le dolmen des Fadarelles. Vous voyez, ça change. On raconte qu'à cet endroit-là, il y avait une Fadarelle qui était tranquille, en train d'enfiler ses bas rouges, quand des humains l'ont capturée. Il y a plusieurs légendes comme ça où ils s'amusent à capturer des fées, sûrement pour subtiliser leurs secrets. Ça, c'est pas forcément toujours... Mais là, il y a la sœur de la fée qui est venue lui dire, au moins elle s'est fait capturer et enfermer. Enfin, c'est toujours un peu glauque ces histoires-là. Mais garde-toi de vendre le secret de la sauge, car si les riches savaient, ils laisseraient mourir de faim les pauvres. Vers Sainte-Eulalie, il s'est passé un peu la même histoire, sauf que là, la fée, elle a dit à l'autre, garde-toi de divulguer la vertu de la sauge et le secret de conserver le blé.
Oui, mais parce qu'on dit aussi que qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin.
Hein. Ben
donc,
oui.
Donc c'est que la sauge, quand même, c'est puissant. Mais du coup, oui.
Attention, on est en train de basculer sur la sorcellerie, là.
Oui, parce que justement, au musée de Millau, tu le sais, on a une pièce extraordinaire.
Une pièce maîtresse.
En fait, il faut dire que les fées, elles ont aussi été mises, reléguées un peu sur le côté des sociétés dans lesquelles elles étaient de moins en moins considérées. Et donc, elles sont devenues petit à petit, avec l'évangélisation, elles se sont transformées en sorcières, on va dire, pour faire un peu court. Et donc, au musée de Millau, on a un objet qu'on appelle la plaque de plomb de l'Hospitalet, qui là aussi a été trouvé sous terre dans une tombe près de La Vessière, donc près de l'Hospitalet, dans les années, au début des années 80, par Alain Vernet et Francis Jean-Jean. Et cette plaque de plomb, elle est extraordinaire parce que c'est le plus long texte en langue gauloise qui soit écrit au monde entier.
Je veux dire, et il est à Millau.
Et l'entrée est gratuite. Ouais. Et ça... C'est vrai. Et on en discute avec Francis Jean-Jean de temps en temps.
Ouais, mais quand à Nîmes, ils rendront la statuette du
voilà,
Larzac.
C'est un jeu de chaise musicale, tu vois. Donc cette plaque de plomb, elle est assez incroyable. Voilà. Parce qu'elle raconte une histoire de sort et de contre-sort.
Voilà, elle est une peau complicate. Donc accrochez-vous. Hein. Peut-être d'abord, je lis le sort.
Ouais, comme... juste pour la replacer, elle était déposée quand ils l'ont découverte sur ou à côté d'une urne funéraire. Voilà.
Ouais, c'est important. Hein, c'est une espèce de dialogue vers l'au-delà. Attention, voilà ce que dit la plaque en partie, hein, parce que c'est beaucoup plus long, mais en partie. On voit le charme de ces femmes contre leurs noms qui sont ci-dessous. Cela est un charme de sorcière en sorcelant des sorcières. Oh, oh non, il y a le nom de la déesse super dur à lire là. Adzaxona. Oui, de toute façon, ils ne vont pas aller vérifier. Regarde deux fois Severa Tertionicna. Ça, c'est une sorcière. Hein, leur sorcière de fil et leur sorcière d'écriture. Qu'elles relâchent celui qu'elles auront frappé de défixio. Avec un mauvais sort contre leur nom, effectuent l'ensorcellement du groupe ci-dessous. Et là, une série de 12 noms féminins. Donc, à la grosse. Ce qui se passe, c'est qu'on demande à une déesse de jeter un sort contre 12 femmes qui, elles-mêmes, avaient fait appel à une sorcière pour jeter un sort sur un juge qui était censé juger la personne qui a demandé le sort.
Ouais, c'est ça, elle a vraiment dit les choses bien.
Je sais
que vous avez compris, quelque
moi.
Chose, mais tu as dit les choses bien.
Mais oui, mais j'ai mis longtemps à comprendre, mais c'est ça l'histoire.
Oui, c'est quand même assez complexe. Voilà, donc on est quand même... voilà, il y a la question du sacré là, elle se pose pleinement avec cet objet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette tombe, il y avait aussi d'autres objets, des offrandes en réalité. Et ces objets, eh bien, c'était des objets qui avaient été fabriqués à la Grofezinck. Je vous en ai parlé un peu ce matin, enfin, à Condatomagos, Condatomagus, puisque on était à l'époque romaine. Et donc, je pense qu'on peut en voir quelques-uns de ces objets qui ont été retrouvés dans cette tombe. Et... en fait, juste pour faire un petit point sur cette céramique en particulier, parce qu'elle est aussi intéressante du point de vue de la terre, d'après les analyses qui ont été faites, cette pâte des vases sigillés, elle provient d'argile grise, plastique et homogène, qu'on trouve dans les vallées du secteur. Là. Donc les liasses marneux qui affleurent dans les vallées du Domérien, du Toarcien, de l'Alénien, etc. Les engobes rouges, donc ce qui fait la couleur de cette céramique sigillée, les engobes rouges vitrifiées des céramiques qui proviennent d'argile rouge du Permo-Trias et donc ce sont des gisements qui sont assez proches aussi des sites de production, donc plutôt le Cosse rouge au nord-ouest de Millau. Après, il y avait d'autres types de céramiques, plutôt plus jaunes, on va dire. On ne les voit pas vraiment là, mais... et qui, alors eux, les engobes rouges jaunes vitrifiés, ils étaient... enfin, c'était les marbrés, en fait. Eh bien, eux, ils proviennent d'une argile rare qui, visiblement, sortirait du côté des vignes, là-bas, avec des pointements volcaniques voisins. Et voilà pour la question de l'origine des argiles utilisées pour la production de céramique de sigillée. Et comme on a déjà évoqué ça ce matin, la question de la fin de cet écosystème, elle se pose en termes de transition et on ne sait pas vraiment pour quelles raisons les choses se sont arrêtées, soit la délocalisation de la production, soit l'épuisement de certaines ressources, peut-être le bois, peut-être des veines d'argile qui faisaient défaut. En tout cas, ça nous ramène à une problématique de modèle à bout de souffle, ça c'est sûr, d'épuisement des ressources aussi, et de nécessité de transformer nos modes d'existence, ce qui suppose de redéfinir, pour boucler la boucle, nos relations au milieu de vie, aux puissances élémentaires qui nous accompagnent. Voilà.
Pour que reviennent les Fadarelles.
Et oui, et les géants, et tout ce petit peuple dont on a vraiment besoin, je crois, aujourd'hui. Merci à vous.
C'était la présentation d'une sélection d'objets et de légendes en lien avec la Terre des Grands Causses par Katia Fersing, directrice du MIMIG, et Malika Verlaguet, artiste-conteuse. C'était dans le cadre de la journée d'études de terre et d'eau qui s'est déroulée à Millau le samedi 11 avril 2026, en partenariat avec la chaire CNRS de professeurs juniors Habitabilité de la Terre et Transition Juste de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chaire occupée par Nastasia Martin. Retrouvez sur Radio Larzac la présentation des conférences et des échanges qui se sont déroulés à cette occasion. C'était, dans les coulisses du musée de Millau et des Grands Causses, une série de pastilles sonores réalisées par Radio Larzac en partenariat avec le MUMIG et le service culture de la ville de Millau. À retrouver en podcast sur radiolarzac.org.